Salut, 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 vous êtes bien dans l'émission Au fond près du radiateur comme tous les mardis soirs de 19 à 20h30 sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en région parisienne et www.rfpp.net partout dans le monde. On est rediffusé aussi le vendredi matin de 7h à 8h30 et on a bien sûr donc un site internet maintenant où vous pouvez télécharger les podcasts de l'émission. Écouter d'autres sons, des petites rubriques et voir nos sources, et écouter la musique aussi qu'on passe pendant l'émission, c'est www.aufondprèsduradiateur.fr. Et puis on a une adresse mail aussi où vous pouvez nous écrire, nous envoyer des infos, des contre-infos, des analyses, des textes, du son, tout ce que vous voulez et qui semble constructif pour cette émission, c'est aufondprèsduradiateur en minuscule en attaché @no-log.org. Voilà, avant de faire le sommaire, on va quand même présenter les gens qui sont sur le plateau. Il y a Mado.
Salut, salut.
Il y a Raph.
Bonjour.
Il y a Tiffen.
Salut.
Il y a l'autre Meuto.
Salut.
Et il y a Mathéo avec Family Beats à la technique.
Ouais, ouais, bonsoir.
Voilà, et on fait une grosse dédicace à tous ceux qui sont pas là ce soir, à Olive, à Mouloud, et puis bah, Sarah et Meuto qui sont encore un peu plus loin. Voilà, on va vous parler dans cette émission, donc en première partie. Rapidement, on va évoquer la fermeture de l'Université Paris 8 qui a eu lieu donc, le jour du 27 et le jour du 28 février dernier, donc suite à l'organisation d'un colloque sur la Palestine. On en reparlera rapidement en début d'émission. On va revenir ensuite sur les crimes racistes et sécuritaires. On va parler donc, du rendu du procès des flics qui ont tué Hakim Hajimi, donc, qui se déroulait à Grasse le 25 février dernier. On va aussi vous passer du son qu'on a pris à Gennevilliers lors d'une conférence de presse organisée par le collectif Vérité et Justice pour Jamal, où une deuxième partie de ce son dont on vous avait déjà passé la semaine dernière et dont on avait déjà pas mal parlé, et donc qui traite de plusieurs cas, encore une fois, de gens qui sont tombés sous les coups de la police. On reviendra aussi en fin d'émission avec une grosse rubrique sur le logement, donc on va parler aussi de ce qui se passe à Saint-Denis. Encore une fois, on en a déjà pas mal parlé dans l'émission. On va parler de ce qui se passe à Toulouse aussi, avec l'ouverture et l'expulsion très rapidement après d'un lieu par le CREA, donc le collectif pour la réquisition, l'entraide et l'autogestion. On en a déjà aussi parlé dans l'émission. Et puis on reviendra à la fin de l'émission avec la fameuse rubrique FAF. On ne vous en dit pas plus, c'est une surprise. Voilà, donc on va commencer cette émission par parler donc de ce qui s'est passé sur la fac de Paris 8 à Saint-Denis. La semaine dernière, donc c'était le 27 et 28 février dernier, un colloque intitulé « Israël, un état d'apartheid », point d'interrogation, donc devait se tenir dans l'enceinte de l'Université de Paris 8 et a été annulé plus ou moins au dernier moment. En tout cas, la fac a fermé administrativement sur ordre de la présidence donc, de cette université. On va d'abord donc citer un extrait donc du communiqué paru suite quand même à ce colloque qui a pu se tenir à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Donc où on va citer. Déclaration finale des organisatrices et organisateurs du colloque Israël, un état d'apartheid. Malgré les pressions et la fermeture de l'Université Paris 8, le colloque Israël, un état d'apartheid s'est tenu les 27 et 28 février à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Comme prévu, ce sont pas moins de 300 personnes qui ont assisté aux tables rondes pendant ces deux jours. Les interventions des invités et les débats ont été d'une grande qualité et malgré quelques difficultés liées au changement de lieu d'organisation de l'événement, nous pouvons dire que ce colloque est une réussite. Alors, avant de continuer à citer un peu ce texte, je voulais revenir quand même sur le fait de qu'est-ce qui a pu faire interdire ce colloque. On sait quand même que ça fait des années, voire des dizaines d'années que des militants, des gens en France, qu'ils soient français ou pas ou autres, militent sur la question de la Palestine. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui on peut parler d'apartheid. Nous, on va pas s'étendre là-dessus, mais en tout cas, le choix de ce mot est clairement pas incohérent non plus avec la situation en Palestine aujourd'hui. On va pas s'étendre là-dessus, bien sûr, mais c'est vrai que suite à l'intervention de différentes organisations donc qui soutiennent l'État d'Israël tel qu'il est, la présidence de Paris 8 a décidé de fermer administrativement l'université pour empêcher que se tienne ce colloque avec cet intitulé. Ce qu'il faut dire, c'est que ces militants, en tout cas qui militent dans ces collectifs locaux pour la Palestine, sont vraiment pas des grands méchants loups. Même on le remarque quand on lit le communiqué, en tout cas le début, on se rend compte que c'est des universitaires qui voulaient organiser quelque chose dans une université avec tout un tas de colloques, de conférences, de débats, de tables rondes sur la question du peuple palestinien. et cet état d'apartheid. Donc, c'est sûr que voilà, la présidence a plus ou moins pris en grippe cet état d'esprit et a refusé, en tout cas, tout dialogue avec les gens impliqués et ont décidé de fermer la fac.
On peut clairement parler de censure, hein, tout simplement. C'est le mot qui convient, là, je pense.
Exactement, ouais, c'est de la censure. Alors, on ne va pas parler, justement, aussi de ce qui est un peu des dissensions qu'il y a au sein du collectif Palestine, puisque voilà, l'idée, c'était quand même aussi d'essayer de tenir ce colloque dans cette université et pas de refuser, enfin de partir ailleurs sous la pression, puisque la Bourse du Travail, c'est vrai, a accepté finalement de faire ce colloque pour qu'il se déroule bien. Après, s'ils avaient refusé, on serait allé dans le bar du coin et on l'aurait fait. C'est sûr que c'est un peu dommage de lâcher cette pression. Maintenant, le colloque a pu se tenir. Il est évident que même les gens qui ont conspué ce colloque ne sont même pas allés voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Donc c'est sûr que c'est juste de une espèce d'attitude médiatique que ces gens-là prennent pour justifier donc leur arrogance et la fermeture de l'université. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que de plus en plus, les facs, en tout cas les présidences des facs, utilisent cette arme de fermer administrativement un lieu tel qu'une université pour empêcher toute forme d'organisation, de réflexion, de résistance. Et ça, c'est ça, ça arrive dans plein de cas où les gens veulent se réunir et pas forcément dans le contexte d'un colloque pour la Palestine. On se rappelle que à plein de moments, dans les grèves universitaires notamment, où la fac devient aussi un lieu d'organisation pour tout un tas de gens qui décident de voir un peu les choses autrement, on sait que ce coup de pression de fermer une fac administrativement marche très bien et les présidents s'en servent comme vraiment pour casser ces grèves, casser ces formes de résistance. Donc là, on se pose aussi la question de savoir qui prend en otage qui finalement, hein, parce que c'est vrai que ça, c'est souvent un reproche qu'on fait aux gens qui font grève pour une raison politique bien claire et qui affichent une réelle détermination. On leur reproche de prendre en otage des gens parce qu'effectivement ils bloquent un flux, ils bloquent une entrée à l'université. Là par contre, il y a souvent un dialogue quand même qui est possible puisque les gens bloquent physiquement. Par contre, quand c'est la présidence qui le décide, elle le décide unilatéralement et elle le fait bien comme il faut, quoi. Et limite, personne n'est au courant. Et par contre, les raisons ne sont pas du tout claires puisque même aucun communiqué de la présidence officielle n'a été sorti à ce sujet-là, qui dit clairement sur quel motif politique ils défendent la fermeture de leur université.
Ouais, il y a eu quand même un espèce de communiqué qui est passé, qui est sorti la veille en fait de la fermeture, donc le dimanche, donc l'information a vachement pu tourner. Il me semble, ça a vérifié, mais il me semble que le motif de la fermeture administrative, c'était risque d'incitation à la haine raciale. Voilà.
Voilà, et... Il disait aussi risque de trouble à l'ordre public. Et pour moi, en fait, je voulais dire aussi, on tient un colloque sur... pour moi, ce qui s'est passé dans la tête de Pascal Benzac, le président, là, c'est on tient un colloque dans le 93, dans une université du 93. Donc dans le 93, pas mal de jeunes immigrés, des Noirs, des Arabes, donc des musulmans, donc un colloque sur Israël, donc soi-disant des risques de troubles à l'ordre public. Et pour moi, c'est du racisme aussi.
C'est clair que on peut. Ouais, c'est clair que vu comme ça, c'est carrément du racisme. Et que quand je disais aucun motif sérieux politiquement, c'est parce qu'on se cache derrière des formules troubles à l'ordre public, incitation à la haine raciale, qui aujourd'hui ne veulent rien dire dans un contexte où on organise un colloque pour réfléchir à certaines questions. En tout cas, on avait envie de parler de ça parce que c'est vrai qu'on avait reçu des coups de fil aussi de la part d'auditeurs qui trouvaient ça scandaleux que cette situation ait pu avoir lieu. Et puis on est solidaire de tous ceux qui ont pu lutter pour que ça se sache, en tout cas pour voir le vrai visage de la présidence de Paris 8. Et c'est vrai qu'on avait déjà pas mal parlé des changements qui ont lieu en ce moment dans cette fac. Et donc, on continuera de les démasquer s'il le faut. Et on en reparlera sûrement. On va faire une pause musicale au fond près du radiateur. On revient tout de suite après.
Blessed are those who struggle. God loves you, and wisdom is the principal thing for kings and queens. It goes life,
difficult times and mad crimes. Some pay the price while others refine. Blessed are those who struggle. God loves you, and wisdom is the principal thing for kings and queens. Many our lives will end. It's like a sad song from a violin. Trapped like Daniel's in the lion's den, trying to pierce the iron skin of Leviathan. Souls blowing in the violent winds. God help us if we die in sin. I hear the trials and the cries of men. That's when the riot begins. It's like things never get better. We forever serving Nebuchadnezzar. Since the days of our ancestors, slaves to a man pleasure. Building great architectures, sharp dressers, smart professors. Start my lecture, I build lyrics like an art director. Show it to you like the film projector. Blessed are those who struggle. From day to day we all hustle. Coming home with sore muscles, scarred faces, scuffed knuckles. We all share the same trouble, separated couples. Sometimes it seems like there's no escaping. The clutches of Satan, spending years in state pens, awaiting patient. Dreams of a scholarship, ended by a hollow tip. Politics and number slips, it goes life. Difficult times and mad crimes. Some pay the price while others be fine. Blessed are those who struggle. God loves you, and wisdom is the principal thing for kings and queens. Here goes life. Difficult times and mad crimes. Some pay the price while others be fine. Blessed are those who struggle. God loves you, and wisdom is the principal thing for kings and queens. Once shoved in ships, now we bloods and crips. Thugs with clips, niggas who love their clicks. Hit the clubs and shit, so they can rub their hips. Hugs and flicks, niggas with drugs and whips. Cash rules this rotten apple, it got a worm in it. Corrupt Senate, in my man's Jeep with the windows tinted. Sipping Guinness, observing all the clinics and liquor spots. It make me lick a shop through the rooftop. I never seen the glory. In the ghetto, it's the same story. Cigarette butts and cold coffee. Black faces and white mouths. They cry out before the White House. Ain't no wealth shared. It's welfare and poor healthcare. Self-scared. It's senseless. The way they got our black princess on public assistance to end our existence. It goes life. Difficult times and mad crimes. Some pay the price while others be fine. Blessed are those who struggle. God loves you. And wisdom is the principal thing for kings and queens. Life, difficult times and mad crimes. Some pay the price while others be fine. Blessed are those who struggle. God loves you, and wisdom is the principal thing for kings and queens. It goes life.
C'est Killer Priest, Blessed Are Those Who Struggle. Dédicace à ceux qui luttent, et on est de retour au fond près du radiateur 106.3 FM. Voilà, on va continuer cette émission et on va parler donc des crimes racistes et sécuritaires. On va vous parler de plusieurs choses. Je laisse la parole à Madeleine.
On va revenir en fait sur plusieurs choses qu'on a déjà évoquées et on va pouvoir, comme d'habitude, ben voilà, élaborer un petit peu la complicité de la justice dans ce qu'on appelle nous souvent les crimes racistes et sécuritaires. Et donc, pour ça, aujourd'hui, en fait, on va principalement revenir sur l'affaire d'Hakim Hajimi, qui est décédé le 9 mai 2008. Mais on va aussi en profiter pour passer la deuxième partie, en fait, du montage son qui avait été fait sur la base de la conférence qui a eu lieu à Gennevilliers il y a quelques semaines. Organisé donc par le comité Vérité et Justice pour Jamal, suite donc au décès de Jamal dans la prison de Nanterre, donc à la fin du mois de novembre, dont on vous a parlé dont on vous a parlé aussi plusieurs fois. Comme ça nous permettra un petit peu de généraliser et de pouvoir discuter ensuite calmement des dernières actualités qui sont absolument splendide, voilà, de la réaction de la police et de ce qui s'est produit ces deux dernières semaines un petit peu autour de cette affaire. Donc avant d'écouter le son, je vais vous remettre un petit peu dans le contexte au cas où si vous n'avez pas été des auditeurs sérieux et que vous n'avez pas écouté toutes les superbes émissions et les sujets qu'on avait fait par rapport à ça. Donc tout d'abord, donc Hakim Hajimi, c'est quelqu'un qui est décédé le 9 mai 2008 au cours d'une interpellation. Il a été donc savoir que dans cette interpellation, il y a 7 policiers qui ont participé, dont 2 donc qui sont plus ou moins directement ceux qui l'ont donc assassiné par donc une des techniques d'interpellation qui en fait était donc la compression thoracique et une clé de bras. Donc c'est 2 mouvements différents, mais bien sûr quand on les conjugue et qu'on maintient les compressions thoraciques, on a déjà pu le voir pour sur différentes affaires, ça mène à une asphyxie. Donc dès le départ, le rapport d'expertise lui-même, hein, médical, s'accordait sur le fait que donc Hakim était décédé suite à une asphyxie mécanique lente. La tête du vocabulaire, on imagine un petit peu la souffrance. Et donc suite à ça, il y avait eu donc un premier procès qui s'était passé donc en 2010. Où les juges d'instruction de Grasse en charge du dossier avaient rendu une ordonnance de non-lieu, voilà, partielle pour les 2 fonctionnaires de la BAC directement concernés. Et donc, suite à l'appel de cette décision par le parquet, les policiers avaient été renvoyés le 9 septembre dernier donc devant le tribunal correctionnel. Et le procès se tenait donc du 16 au 20 janvier, voilà, 2012. À savoir que même dans ce procès-là, on continue à donner comme intitulé l'homicide involontaire, voilà, ce qui reste un qualificatif qui est pas, comme on le disait déjà tout à l'heure, dénué de sens. Voilà, on n'utilise pas les mots pour rien. Pendant ce procès, on a pu vous parler de différentes choses. Il y a eu une mobilisation qui s'est passée avec différentes manifestations, à Grasse même. Une mobilisation qui était autour des violences policières en général. Mais il y a eu aussi, on a aussi pu vous parler de réactions qui étaient en rapport direct avec ce procès, dont le départ de la famille, des proches et des gens qui étaient venus en soutien à cette famille, des proches. Donc, du réquisitoire, voilà, du procureur de la République, et ils avaient aussi refusé donc d'assister aux plaidoiries des avocats des policiers du fait que dans la plaidoirie elle-même n'était demandée comme peine que des peines avec sursis et très moindres.
Et à ce propos-là, d'ailleurs, il y a un texte qui est sorti, qui est très intéressant et qui s'appelle « Pourquoi nous quittons la salle », que vous pouvez retrouver très facilement sur Internet.
Voilà, et qu'on avait pu vous en lire une partie. Donc, pour clore un petit peu, voilà. Donc, à la fin de ce procès, donc il y a le rendu, et dans ce rendu, il y a simplement donc 2 policiers donc de la BAC qui sont condamnés pour homicide involontaire. Donc respectivement à 18 et 24 mois de prison, donc avec sursis. Donc suite à ce rendu, il y a eu un texte qui a été publié. Je pense que tout simplement, il est assez clair. Donc je vais vous en citer une toute petite partie. Non, la famille Hajimi n'a pas eu le respect que lui devait le tribunal de Grasse. Oui, la mémoire d'Abdel Hakim Hajimi a été salie par des voyous en uniforme, du sursis pour des actes barbares et une compensation financière pour la famille. Ah, elle est belle, la justice. Pour notre part, nous réaffirmons que les policiers devraient dormir en prison ce soir. Mais aujourd'hui, comme hier, le fait d'être policier excuse tout. Ce jugement équivaut à un permis de tuer pour la police. Voilà. Ça, c'était un extrait du texte qui avait été écrit donc, par le comité vérité et justice pour Hakim Hajimi.
Et du coup, il vient quand même d'un site internet qui a écrit un long texte assez intéressant sur tous les cas de crimes racistes racistes et sécuritaires commis par la police, et où on voit que depuis 1992, il me semble que c'est de là commence le texte, ou peut-être un peu plus tard, jusqu'à nos jours, la complicité de la justice et sur des cas de meurtre commis par la police sur des jeunes dans les quartiers est affligeante, et que sur 30 cas cités, on va dire ça au hasard pour reprendre le texte, 29 cas, les policiers n'ont jamais rien, ou alors très peu, comme pour le cas de Hakim Hajimi, là, 24 mois de sursis maximum, quoi.
Voilà, donc on vous encourage toujours à lire ces textes-là, parce que c'est un travail qui semble être juste un travail un peu administratif, des fois, de recenser. Mais il se trouve que, ben voilà, en réalité, le principal travail de l'État, de la police et de la justice dans sa complicité, c'est aussi de faire que ces choses-là n'aient aucune visibilité. Et donc, au sein, aucun recensement puisse être fait. Et donc, un des premiers outils de lutte, et de pouvoir se retrouver aussi, c'est de pouvoir savoir un petit peu où est-ce qu'on en est et comment, et donc faire ce travail-là aussi de recensement et donc de le faire aussi à partir donc effectivement des plaintes qui sont portées et donc des combats judiciaires qui sont menés et eux dont on peut avoir les informations. Donc on vous redonnera les adresses à la fin de la de cette petite rubrique. Là simplement on va écouter donc un petit peu la deuxième partie de ce montage qui a été pris à la conférence de Gennevilliers, à savoir que dans ce montage on commence justement par le témoignage d'une personne qui était à Grasse et a assisté au procès. Donc c'est assez intéressant ce qu'elle dit, mais que voilà, on a aussi les témoignages donc de Ramata, donc la sœur de la Ming Jen. On nous parle aussi de Wissam, dont on vous a déjà parlé, et on revient aussi un petit peu sur un témoignage d'un co-détenu de Jamal. Donc je vous laisse écouter ça, et puis on revient tout de suite après au fond près du radiateur pour rediscuter un petit peu de ces histoires.
C'est un long combat, comme ça, là, on l'a dit tout à l'heure. C'est en fait c'est un combat à la fois illégal et long. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les familles à qui il arrive ce type de drame, qui pour la plupart du temps sont arabes ou noirs, croient en la justice dans un premier temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la réaction première, c'est on a les faits sont, c'est-à-dire les faits sont avérés, et donc du coup, il y a une confiance dans la justice. Voilà. S'il y a des preuves, s'il y a des témoignages, et si les faits sont là, eh ben, la plupart du temps, le réflexe qu'on a, c'est de dire que la justice va faire son travail et que du coup, eh ben, va rétablir les faits. Maintenant, en pratique, ça se passe très rarement comme ça. Et depuis la mort de Jamal, il y a eu d'autres cas. Apparemment, il y a eu un cas très récemment, là, à la prison de Nanterre, quelqu'un qui se serait, entre guillemets, suicidé. Et même sans parler que des prisons, depuis la mort de Jamal Al-Ahmad, on était en octobre, les morts violentes sous les coups ou les balles de la police, il y en a eu partout. Donc, on pense à Clermont-Ferrand, ce qui est passé pour Wissem Al-Ahmad. On pense à Abdelila, à Aulnay. Et puis surtout, il y a eu aussi, non seulement il y a eu des morts violentes sous les coups de la police depuis le mois d'octobre, mais il y a aussi des affaires qui ont connu un dénouement. Et souvent c'est malheureux. Alors il y a eu par exemple le non-lieu qui a été requis pour Ali Zeli, ce kabyle de 69 ans qui avait été tué et qui est là, on a requis un non-lieu donc pour ses assassins. Il y a eu aussi le procès qui s'est tenu pour les meurtriers de Hakim Hajimi, donc c'est un procès en correctionnel. Il y a des gens qui sont dans la salle là, qui étaient avec nous à Grasse. On a passé la semaine là-bas pour suivre le procès. Et en fait, pourquoi je vous en parle? Parce que même si Hakim a été tué en pleine rue, en plein centre-ville, en plein après-midi, c'est pas donc le même cas que pour Jamal, mais les faits se ressemblent assez. Ça veut dire que à chaque fois, on dit c'est parce que la personne en fait était insolente avec la police ou avec les détenus qu'elle a été tuée. Mais c'est pas l'insolence qui tue, parce que moi, des gens qui sont insolents et qui sont des bourgeois et qui habitent je sais pas où, ils ne seront pas tués par la police ou par l'administration pénitentiaire. Donc ce n'est pas l'insolence qui tue, ce n'est pas le fait que Jamal, Arahmo ou Hakim ait répondu ou bien se soit débattu, etc., qu'il l'a tué. C'est parce qu'il y a des gens qui ont voulu le tuer et qui l'ont tué. Voilà. Et ces gens-là exercent l'autorité publique et sont payés avec les impôts de tout le monde. Donc est-ce qu'ils sont là pour tuer les gens ou est-ce qu'ils sont là au service de la population? Donc du coup, pourquoi je vous parle de l'affaire de Hakim Hajimi? C'est que ça a mis 4 ans. La famille s'est accrochée pendant 4 ans. Sachant que là, tous les faits étaient vraiment établis et les témoignages accablants, les expertises accablantes. Les expertises disaient que Hakim Larahmo est mort d'une asphyxie mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux policiers de la BAC. Il y en a un qui lui a fait une clé de bras, une clé d'étranglement au niveau du cou. Et l'autre qui s'est assis sur son thorax pendant qu'il était menotté et allongé sur le ventre. Il y a une dizaine de témoins qui l'ont vu. Il y a même une caméra de surveillance juste à côté de la sous-préfecture, ça s'est passé en plein centre-ville, en plein après-midi, qui a filmé, comme par hasard, les bandes ont disparu. Et donc, des dizaines de témoins, y compris des policiers qui ont vu la scène. Hakim se fait tuer en pleine journée parce qu'il ne voulait pas se laisser emmener au poste. Tout ça parce qu'il avait mis une gifle au directeur d'agence du Crédit Agricole où il a son compte. Et malgré ces éléments, dans un premier temps, les magistrats instructeurs, donc c'est eux qui décident s'il faut, oui ou non, ouvrir une plainte contre les policiers mis en cause. Par deux fois, les magistrats instructeurs ont dit que non. Une première fois, ils ont dit qu'ils n'ont pas voulu ouvrir une enquête contre les policiers. Donc la famille s'est accrochée, leur avocat a fait, enfin le procureur a fait appel. Une deuxième fois, les magistrats instructeurs ont dit non, on ne veut pas poursuivre les policiers. Une deuxième fois, ils ont fait appel. Donc tout ça pour dire que la justice fait en sorte de faire perdre du temps parce qu'ils pensent qu'en fait que la famille, plus le temps va passer et la colère de la famille, des proches et des soutiens de la famille va baisser. Ils se disent voilà, on va les faire perdre du temps, on va les faire galérer en tracasserie administrative et puis au bout d'un an, deux ans, peut-être trois ans, et ben les gens diront Lara Lub, on ne peut rien contre ce système, etc. Sauf qu'il y a des gens, il y a des familles, il y a des collectifs qui s'accrochent, Salah en a parlé tout à l'heure, il y a des gens qui ne lâchent pas l'affaire. Et en fait, ces gens-là qui ne lâchent pas l'affaire, ce n'est pas nécessairement qu'ils ont du courage, c'est qu'en fait, ils savent qu'ils n'ont pas le choix. C'est soit ils continuent, soit alors ils disent ok, ben l'État a le droit de nous tuer. Voilà, l'État a le droit de tuer des Noirs et des Arabes et personne ne dit rien. Et ben non, il y a des familles qui sont accrochées, et du coup, il y a eu deux fois les magistrats instructeurs ont dit pour Hakim, il n'y a pas lieu de poursuivre. Deux fois, ils ont fait appel. Et à la fin, ils ont poursuivi les policiers, donc deux agents de la BAC et cinq autres policiers. Et ils les ont poursuivis pourquoi ? Alors que c'était avéré les faits, ils les ont poursuivis pour homicide involontaire, c'est-à-dire pour le truc le plus léger dans ce type d'affaires, et pour non-assistance à personne en danger. Voilà, c'est-à-dire que normalement, n'importe qui ici, dès qu'on s'en prend à la police, c'est cour d'assises tout de suite. On a vu comment ça s'est passé à Villers-le-Bel. Ils n'avaient aucune preuve. Ils n'avaient que des témoignages anonymes rémunérés. Rien. Ils ont fait 200 perquisitions à Villers-le-Bel. Ils n'ont rien trouvé. Aucune arme, ni rien. Et malgré ça, eh ben, on a condamné quoi ? On a condamné dans un premier temps 5 personnes. Et là, il y a eu le procès en appel pendant que Djamel... au même moment où Djamel est mort, juste à côté, au TGI de Nanterre, à la cour d'assises de Nanterre, il y avait le procès en appel, donc des... tireur présumé de Villers-le-Bel. En fait, la police était incapable de dire qui, et pourtant, ils ont condamné les frères Camara, Abdelrahman et Adama à 12 et 15 ans de prison. Vous imaginez, sans preuve, sans rien, 12 ans et 15 ans de prison. Pourquoi ? Parce que des policiers se sont fait tirer dessus, des fois au pistolet à plomb en plus, et ils ne supportaient pas ça. Donc du coup, sans preuve, sans rien, on met 12 et 15 ans, alors que là, pour Hakim, par exemple, à Rahmo, avec tous les témoignages, les expertises, même une caméra de surveillance, eh ben on dit que c'est homicide involontaire. Et donc du coup, comme ils ont dit que c'était homicide involontaire, on est allé à Grasse pour le procès qui s'est déroulé il y a deux semaines. Et là, on a vu un juge qui plaisantait avec les policiers, qui les aidait à finir leurs phrases, qui leur disait « vous inquiétez pas, ça va bien se passer ». Et on avait l'impression que c'était Hakim Lahmo qui était accusé. Et quand on a vu le père de Hakim venir à la barre et subir un véritable interrogatoire de la part du juge, et ben en fait, là, on se demandait qui était accusé, en fait. Est-ce que c'est Hakim qu'on avait accusé d'être mort, ou est-ce que c'était les policiers qui ont tellement abusé ce procès que le père de Hakim n'a pas supporté, il est sorti du tribunal, et on l'a tous suivi. Et du coup, on les a laissés entre eux. Et quand on les a laissés entre eux, c'était pour dire, voilà, nous, on ne croit pas dans votre justice, on a vu ce que c'était. Ils ont requis des peines de sursis simples pour les policiers, c'est-à-dire qu'ils ont tué un jeune homme de 23 ans, 22 ans, il avait Hakim, à l'époque des faits, eh ben, ils ont tué un jeune homme de 22 ans et on leur dit sursis simple. N'importe qui ici vole un vélo à Port-de-la-Villette, là, vous volez un vélo, vous avez plus que du sursis simple. Vous avez du sursis avec période de mise à l'épreuve, etc. Là, on a des policiers qui tuent quelqu'un en pleine journée, en plein après-midi, et parce que c'est un arabe, eh ben, ils disent quoi ? Sursis simple. Sursis simple pour un policier, c'est-à-dire que c'est même pas inscrit dans son casier judiciaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont rien avoir. Même pas d'amende, ils ont demandé. Du sursis simple, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, il va rien se passer. Donc du coup, c'est ça qui se passe. Donc, dans ce type d'affaires-là, voilà, si vous voulez laisser vos coordonnées, parce que ça va être long, donc du coup, j'espère qu'on sera toujours aussi nombreux. Franchement, je vous remercie d'être venus. J'espère qu'on sera tout le temps aussi nombreux dans toutes les mobilisations qu'on organisera par la suite. Mais il faut se dire que voilà, c'est pas une question de courage, c'est une question que soit on accepte que l'État, que les gens qui agissent au nom de l'État tuent les nôtres, soit on combat. Et eux... Souvent, moi, en discutant avec les personnes, quand on est venu dans la semaine dernière, celle d'avant, même devant la maison d'arrêt de Nanterre, en discutant avec les gens, il y en avait qui me disaient, parce que même moi, des fois, je me le dis, ça sert à rien ce que vous faites, l'État, il est trop fort. Et bien, je vous jure que ça les embête, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est pas juste que le quartier il soit calme. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on enterre l'affaire. C'est pour ça qu'ils nous ont dit, allez au cimetière. Allez au cimetière pour qu'on enterre l'affaire. Donc c'est ça qu'ils veulent, en fait, la mairie, l'administration, la police, la justice. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on enterre l'affaire et qu'on n'en parle plus du tout. Même le fait qu'on soit là, en fait, pourquoi ils ne nous ont pas proposé de salle? Ils nous proposent d'aller à Perpète et tout, c'est qu'ils voulaient tout simplement pas qu'on se réunisse. Donc du coup, le fait que eux, ça les dérange qu'on parle de cette affaire-là, le fait que eux, ça les dérange qu'on parle de Jamel, eh ben moi, et j'espère qu'on est nombreux, ça nous pousse à continuer à le faire, parce que si ça les dérange, c'est que quelque part, on est dans le juste. Donc voilà, merci à ceux qui veulent prendre la parole.
Bonsoir à tous et merci encore une fois d'être là pour Jamal et pour toutes les autres victimes. Je m'appelle Ramata. Mon frère Lalin Dieng a été tué par la police en 2007, en juin 2007. Ils étaient 8 ce soir-là. Ils ont menotté Lamine sur la nuque. Ils lui ont posé des sangles de contention en cuir sur les chevilles. À aucun moment, pendant une demi-heure, Lamine ne s'est retrouvé dans la position verticale. Il était tout le temps allongé face au poteau. 4 policiers se sont agenouillés sur Lamine alors qu'il était menotté. Il est mort étouffé par ses policiers dans le fourgon de police. Depuis, nous avons porté plainte. Nous nous sommes constitués partie civile. Et malheureusement, l'instruction, au bout de 4 ans et demi, est encore en cours. Les expertises médico-légales disent que Lamine est mort d'une asphyxie mécanique, comme Abdelhakim Hajimi. Il a été plié comme Ali Ziri, c'est-à-dire on lui a remonté les jambes jusqu'au fessier. Et voilà. Donc il n'est pas le seul. Il y a Mamadou Marega également qui a été tué exactement dans ce même schéma fin 2010. Il y a également, je peux même pas vous donner la liste, tellement il y a de gens qui se font tuer par la police. Maurice Rachfus, qui est le seul à faire le recensement au niveau de la France, a révélé qu'une quinzaine de personnes en moyenne se font tuer par la police et il ne se passe absolument rien. Moi-même, l'année où mon frère a été tué, j'en ai recensé 19. Et comme vous le disiez tout à l'heure, mon camarade, pardon, j'ai pas ton prénom, le problème, c'est que les familles renoncent, elles ne portent pas plainte. Et il faut absolument, pour que ça s'arrête, si nous voulons tous que ça s'arrête, c'est la raison de notre présence ici, il faut porter plainte. C'est dur, c'est pas évident, parce qu'aller au commissariat, ça veut dire qu'on risque de rejeter votre plainte, ils refusent de prendre votre plainte, mais il ne faut pas renoncer. Parce que si vous renoncez, ça signifie clairement, continuez à nous maltraiter, continuez à nous tuer, c'est pas grave, c'est sans importance. Or, non, il n'en est pas question. Comme ça, là, nous avons dit non. Nous ne sommes pas plus forts que les autres familles. Nous ne sommes pas plus courageux. Comme l'a dit mon ami tout à l'heure, effectivement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, alors il faut y aller. Il s'agit de sauver des vies. Nous sommes ici en France. Nous vivons ici. Nous payons des impôts. Nous avons des enfants. Et demain, ça veut dire quoi? Que nos enfants vont courir le même risque que nos frères et sœurs qui ont été tués par la police? Non, il n'en est pas question. On a assez pleuré, il faut se battre. Voilà, le moment est venu pour la lutte. C'est pour cela qu'il y a 6 familles aujourd'hui qui se sont réunies en un collectif appelé Vie volée par la police. Les familles victimes de ces violences policières à nous rejoindre, d'une part pour partager nos expériences, d'autre part pour montrer à l'ensemble de la population que ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents, parce que c'est pour ça que souvent on entend le terme bavure, c'est censé être accidentel. Or, quelqu'un qui est menotté, comme Ali Ziri l'a été, comme Mamadou Marega l'a été, comme Lamine l'a été, et qui est posé face contre terre, elle ne peut rien faire d'autre que respirer. Et ces policiers, soi-disant chargés de la sécurité publique de l'ensemble de la population, s'agenouillent sur ces personnes, si ce n'est pas pour les tuer, qu'on me dise, c'est pourquoi. Donc ces familles luttent et on appelle vraiment tout le monde à, si vous connaissez des familles, si vous êtes vous-même touché, de faire circuler l'information de manière à ce que ces familles nous rejoignent. L'objectif, effectivement, c'est donner non seulement de la visibilité, de la voix, mais c'est également dresser un mémorial de toutes ces victimes, pour ne pas qu'elles soient oubliées.
conférence il y a trois semaines, je suis allée voir les jeunes et les gens du quartier de la Gautière, qui est une ZUP à Clermont-Ferrand, où dans la nuit de Saint-Sylvestre, comme vous le savez, Wissam a été roué de coups, tabassé à mort. Donc ils ont, comme vous le savez, sûrement une caravane. Ils ont créé un collectif, bien sûr, Vérité, Justice pour Wissam. Et ils envisagent de faire une tournée, je voulais juste le dire, parce que, voilà, c'est juste pour témoigner de beaucoup, beaucoup de jeunes. Je ne les connaissais pas, je suis allée voir ma mère, je suis arrivée à la gare de Clermont-Ferrand, je n'avais aucun contact. J'ai traversé, je suis rentrée dans le premier magasin venu, c'était une viennoiserie. Et la jeune fille connaissait Wissam, et après quelqu'un est rentré, un jeune homme qui connaissait Wissam, et tout le monde à Clermont-Ferrand avait l'air de connaître Wissam, parce que ça a tellement choqué. Et je dirais aussi une chose de plus, c'est que je me demande si, dans la période actuelle, où notre cher président, n'est-ce pas, a des chances de ne pas être élu, on dirait qu'il fait tout pour lâcher ses policiers encore plus que d'habitude, pour essayer de susciter des émeutes, parce que ça permettrait à tous les vieux Français de le réélire.
On n'est pas là pour faire de la politique, on n'est pas là pour autre chose. On est là pour la mémoire de Jamel, pour la justice et la paix, tout simplement. Donc j'espère qu'on ira jusqu'au bout et pas lâcher. Merci.
Excusez-moi, je voulais juste ajouter une chose, c'est qu'il y a un site internet qui existe aujourd'hui et qui recense toutes les victimes. Donc ça s'appelle « À toutes les victimes ». Vous le tapez sur Google et vous avez le lien, c'est .samizdat.net. Et sur ce site, il y a également tous les rendez-vous pour toutes les actions concernant les violences policières. Voilà, merci.
J'avais un truc à dire concernant la mort de Ndiama. Moi, je sors de prison, j'étais avec lui en cellule. Hein. Deux semaines avant qu'on l'ait tué, il me parlait de faire son plaid, il me parlait de mariage. Donc voilà, j'y crois pas au suicide. Il me parlait de projet, il me parlait d'avenir, de beaucoup de choses. Voilà. C'est pas suicider, c'est faux ce qu'on a.
Puisque le banlieusard et le gosse d'immigrés manquent de civisme et que la France l'appelle à corps et à cri. Qu'elle veut de lui un effort de citoyenneté, j'ai décidé, moi, de lui donner le meilleur de moi-même. Ce que je sais faire de mieux, ce que je suis de mieux, je te le donne, mon beau pays. Je viens vous léguer mon dégoût, mon écho, mon sale goût du déclin et le goût de mes mégots. Bon créé, mal créé, en grand, en grain, imprint de mon chagrin, surtout s'il est gros. Mon rap pour des clous, mes rares coups d'éclat, mon dépit et en dépôt tous mes pires défauts. Mes torts, mes tares, mon sale caractère et même mes factures de prolétaire s'il le faut. Mon envie de gerber, mon jargon vous larguez, mon genre bagui et mur tagué, mon argot, mon orgueil, mon ercaille, la crasse de mon bercail, le plus bel ongle incarné de mes orteils, mes embrouilles, broutilles, mes failles, entailles, ma tambouille, mon riz et lentilles des Antilles, ma pagaille, ma gouaille, ma grisaille, ma ferraille et mon attirail de tours qui partent en vrille, mes excès, mes abus, mes rêves au rebut, mes habits bien abîmés quand j'ai trop bu, mes plombés toujours plombés qui sentent bon, le vagabond, les escaliers nauséabonds, ma peur du tombeau, mes procès verbaux, mon débit pour flamber, pour faire beau, mon humour en ré mineur et quart de ton et ses carnets dans ses cartons, je vous traite de con. Si le gouvernement veut toujours de moi, il me trouve en banlieue nord, escalier P.
Voilà, c'était Kazé et le son s'appelle Mon plus bel hommage. C'est sur l'album Libérer la bête et on est de retour au fond près du radiateur comme tous les mardis soirs de 19h à 20h30 sur 106.3 FM. Et on va continuer donc de parler de toutes ces histoires de crimes racistes et sécuritaires. On va parler un peu de l'actualité suite à la condamnation des flics lors du procès suite à la mort de Hakim Hajimi.
Voilà. On va reprendre mais juste avant, j'aurais aimé faire quand même une petite remarque sur le son qu'on vient d'écouter. Continuer à dire que voilà, diffuser ça, ce type de d'intervention et de témoignage, c'est important justement parce que, comme on nous l'a dit dès le départ, il y a une question de visibilité où les gens se retrouvent. Qu'effectivement, il y a à travers ces combats qui sont divers, il y a une chose qui s'exprime et qui est commune, qui est une revendication, qui est de dire que la police n'a pas le droit de tuer les gens, ce qui semble a priori pour tout un chacun quelque chose qui devrait être acquis et qui pourtant au quotidien, on le remarque, ne l'est absolument pas. Et que, il faut quand même jamais oublier que ça ne l'est pas, parce que c'est ça qu'on essaye de nous faire croire, et on essaye de nous faire croire cela, alors que on voit bien que si la police tue des gens, c'est aussi parce qu'il y a une politique d'État qui elle-même est raciste et sécuritaire et qui octroie le droit à certaines institutions politiques. Tout autant qu'elles sont exécutives, hein, elles participent de la politique et qu'elles découvrent ensuite à travers les rendus de justice et donc ce rendu de justice de Hakim Hajimi où effectivement on a deux policiers qui sont reconnus d'avoir sont condamnés pour homicide involontaire à des peines avec sursis. Et la famille, elle, ne se sent bafouée. Et pourtant, la réaction des policiers, elle, est de dire qu'ils sont eux-mêmes scandalisés. Et donc, cette affaire, quand elle continue, elle a d'un point de vue absolument aberrant, par une mobilisation des policiers suite au rendu de justice qui reconnaît coupable 2 personnes sur 7. Voilà, d'homicide involontaire. Donc, immédiatement après ce rendu, le lundi, donc le vendredi, le rendu de justice était donné. Donc, lundi, 7 policiers de la brigade anticriminalité de la BAC du commissariat de Grasse remettaient un rapport de démission à leur hiérarchie. Ensuite, le lendemain. D'autres policiers, pour montrer leur soutien à leurs collègues, donner aussi leur démission. Et tout ça pour aboutir à, dernières actualités, une mobilisation qui a eu lieu mardi 28 février dernier, donc la semaine dernière et tout. Nous, on passait de la musique et pendant ce temps-là, il y avait des policiers qui manifestaient devant le commissariat, C'est cocasse. À ce rassemblement, il y avait approximativement 200 policiers. Donc, il y a eu un tract. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot d'ordre, carrément, c'est que les policiers ne se sentent pas en sécurité parce qu'ils estiment que, quelque part, ils doivent être couverts par les institutions judiciaires plus qu'ils ne le sont actuellement, parce qu'en même temps, comment réagir face à la violence des individus? Et donc là, on a tout un discours qu'on a déjà vu aussi lors du tribunal, qui répond aussi à tout un tas de clichés qui sont de l'ordre du racisme, mais même bien pire, des clichés qu'on a juste sur tout un tas de choses, sur des modes de vie, etc. Et donc, on nous parle du fait qu'effectivement, ce qui compte dans tout ça, c'était que la personne interpellée était dangereuse, que la personne interpellée était folle, que d'ailleurs, il y avait des problèmes de schizophrénie qu'on ne sait pas, et qu'en même temps, les policiers, ils ont peur, parce que dans ce monde d'insécurité globale, à un moment donné, comment ils peuvent faire?
Et c'est clair que c'est un discours qui est beaucoup dans les rangs de la police en ce moment et qui ressort beaucoup, notamment dans ce genre d'histoire, c'est le fait que les policiers se sentent réellement, comme tu le dis Madeleine, pas couverts par la justice, alors que nous-mêmes, la situation nous semble déjà insupportable, tellement ces deux institutions, la police et la justice, semblent marcher côte à côte et se tenir la main dans les cas de crimes policiers. Eux, demande voilà l'inverse. Et alors voilà, c'est pour rebondir aussi, il faut savoir que il y a très peu de temps dans l'affaire de Ali Ziri, où on le rappelle quand même, les flics sur Argenteuil sont toujours en service, hein, à l'heure où on vous parle. Ali Ziri, c'est un monsieur qui était mort donc suite à son interpellation par la police, dont on a déjà beaucoup parlé. Il y avait eu une bataille et juridique et aussi dans la rue pour obtenir voilà, vérité et dignité. Et le collectif avait réussi à poser une plaque commémorative à Argenteuil, soulignant donc l'endroit où Ali Ziri était mort suite à son interpellation par la police. Et on avait vu que dès que ça avait été possible, plus ou moins avec l'accord de la mairie, le syndicat SGP Police avec Claude Guéant était venu sur place pour faire une action médiatique et déceler cette plaque parce qu'elle semblait mettre en accusation les policiers, quoi. Voilà. Et donc il se trouve que voilà, sur ce genre d'affaires, visiblement l'État via son ministre de l'Intérieur et les flics via leur syndicat ne semblent vraiment pas vouloir lâcher l'affaire, et même sur le moindre mot, quoi, suite à son interpellation par la police, et là sur la moindre de peine qui nous semble déjà totalement abstraite compte tenu des faits, eux demandent carrément l'acquittement, quoi, pour schématiser.
Juste pour ajouter, ouais, c'est même pas qu'ils pensaient que la plaque mettait trop en cause la police. Et le discours texto, c'était du syndicat Unité SGP Police, hein, c'est, pour le rappeler, c'était toute plaque mettant en cause, c'est-à-dire mentionnant la police nationale dans le cadre de la commémoration d'un décès, fera l'objet d'une mobilisation, en particulier du syndicat SGP Police, mais visiblement de tout un tas d'autres syndicats de police dont vous savez déjà qu'ils sont tous faf pour la plupart.
Voilà, et pour d'ailleurs...
Ouais, non, je voulais juste dire, par exemple, la plaque qui est posée dans le centre de Paris, là, qui commémore la mort de Malik Houssekine en 86, qui avait été tué par les keufs, et ben sur la plaque, il n'y a pas la mention tué par la police, alors que ça a été prouvé, que c'est archi connu, et il n'y a rien marqué sur la plaque.
Voilà, et un peu pour... Voilà, pour ancrer un peu dans le réel le fait qu'à un moment donné, ce soit absolument aberrant, et que c'est important aussi de souligner tout ce qui est mis en œuvre pour que ces gens ne soient pas, eux, mis en cause, pour que la police ne soit pas mise en cause. C'est parce qu'à un moment donné, en fait, juste de mentionner ça, si les gens se retrouvent aussi sur ces combats, c'est parce que très ouvertement et très clairement, il y a une inégalité de traitement devant la justice. Lorsqu'on est policier ou lorsqu'on n'est pas policier. D'ailleurs, il y a aussi une inégalité de traitement lorsqu'on est quelqu'un, un cadre dynamique bien intégré, ou quelqu'un qui vient de la banlieue moins intégrée sous divers, selon diverses raisons que définit l'État. Et je veux dire, et c'est ça qui est refusé. Ce qui est refusé à un moment donné, c'est aussi qu'il y ait une remise en cause de ça, parce que les gens, à un moment donné, ils demandent simplement que les gens, que les policiers soient traités et jugés de la même manière, hein, que ce qu'on nous montre tout le temps quand on veut faire des exemples, parce qu'on ne cesse de vouloir faire des exemples, et par contre, avec eux, on ne cesse de vouloir faire des exemples dans le sens inverse. Parce que c'est aussi, faut jamais oublier que c'est parce qu'on donne un minimum de pouvoir à ces gens là qu'ensuite, eh ben, y a tout un tas d'autres choses qui peuvent rouler comme elles roulent, et que le système peut se dérouler de cette manière-là, et que ça huile un petit peu, voilà, toute une mécanique globale dont la police est clairement au service. Et ça, par contre, ben, remettre en cause à un moment donné un certain rouage ou une certaine inégalité qui fait référence clairement à une domination, ben, c'est impossible, c'est interdit, et il ne faut surtout pas y penser, parce que ce serait déjà prendre conscience de quelle manière, un petit peu au quotidien, voilà, ça se conclut par on tue des gens, quoi.
Voilà, et puis bah, on va dire que pour finir, ce verdict n'aura pas entaché la détermination, en tout cas du collectif Vérité et Justice pour Hakim Hajimi, de combattre encore, puisque le combat ne s'arrête pas là, et même pas que sur cette affaire, en tout cas, on l'espère. Beaucoup d'autres familles et de gens qui luttent se retrouveront sur toutes ces histoires. On va juste rappeler, avant de passer une courte pause musicale, que il y a différentes choses à aller voir concernant ces histoires, notamment donc le petit bulletin qui s'appelle Résistons ensemble, ou que vous pouvez trouver sur internet sur le site résistons.l'autre.net, où bah, toutes ces questions sont traitées et les liens sont établis entre les différents crimes policiers qui surgissent à travers le territoire. Il y a aussi donc, ce texte dont on vous a lu un extrait qui s'appelle « Permis de tuer » qui tourne aussi sur Internet et notamment sur le site de lmsi.net. Et puis, et bah, il y a le site de, un, plus ou moins animé par le collectif Lamine Dieng, donc à toutes les victimes.org, où vous pouvez retrouver bah, toute l'actualité, les infos et les mobilisations qu'il y a autour de ces questions-là. Voilà, on va faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour parler des luttes du logement au fond, près du radiateur.
Platos, bombos, cócteles molotov, mi voz es una Kalashnikov, I love both Aristofio, fluyo veloz contra tu estilo precoz, no, sueno feroz, pongo tu micro en ocio, párrafos largos cargo, fardo porque lo parto, ardo con mi petardo, dar con el dardo en el blanco, me cago en Franco, llenos ladrones de los bancos, final típico, medio melancólico, medio alcohólico, en estado crítico, sí chico, borracho de léxico, soy mítico, rítmico, cuando cojo el beat, David lo hace magnífico, músico en público, si es único, me ofrecen money, paparazzis, lo siento homie, Adonis, odia el marketing de nazis, MCs, en el siglo XIX nazi, en sí, soy una máquina de escribir, así, un Yamakasi, tú casi casi, vas quedando atrás mientras subo más y más y voy en un taxi, de relaxing, masaje sexy, en mi peli hay un cartel que pone exit, vete pa'l Kelly, hablando mierda, ensaya posturas de Nelly, aquí rapeamos pa' ser feliz, te quedas corto, cuando lo bordo, vengo y aporto un texto gordo, negarlo es de sordos, con música de fondo, mis letras yo compongo, sobre cajas y bombos, las rimas hacen combos, ningún secreto escondo, calculo mis diptongos, cuando sueno redondo, me pongo muy cachondo, la música mi bombón, lo mejor en el mundo, si coloco el condón al boli es porque fecundo, clavándola muy hondo, hasta lo más profundo, dando amor me fundo con el tempo y los segundos, un, dos, bailo con la base, juntos, pasos a compases, y es que me encanta que mi garganta sonidos canta, de tantas rimas que tiene se me levanta el pene, nene, la rima se va y viene, viene el efecto boomerang, se mantiene, de que suene, la creme de la creme, extreme, creme, flows más espesos que el semen, emen, sonido tremendo, estrene, en el PC, del CD o en el pen y eleven, muchas más polémicas que leven, si se ven mis jardines desde el Eden, batalla léxica, práctica, esta tántrica, táctica, drástica, ajá, es matemática, toma temática, acústica, más y mástica, es mi música didáctica, suena fantástica, batalla léxica, práctica, esta tántrica, táctica, drástica, ajá, es matemática, toma temática, acústica, más y mástica, es mi música didáctica, suena fantástica, bombos, cajas, la baraja de barajas, encaja mientras viaja, gasaja, majas, ajadeos se descartan, bajas por depres que pasa, japos en masa, como letras flotando en mi casa, esto... No baja, suelto gordas frasazas, vengo a la caza de cajas, atracas de golpes, petracas liadas de mentes quemadas, aquí están, ja, vida, beat y shack, van igual que con la taja, en bolos yo, locos poco coro, con foco en todo el ojo, no retoco trozos al antojo de pijos y ojos, yonkis caprichosos, ricos soy babosos, pato los golosos, golosinas, vicios, gozo el pozo, este trae la peste, hablo de la muerte porque es el poder más fuerte, deja que tu alma secuestre, el monstruo que tú tienes dentro, el fondo de tu pozo negro, lo que llevas dentro y muero, hoy estoy muriendo, vine a morir. Así que me quedé aquí, que de que me quemo que no pude seguir así. Aprendí en mí a hacer sin decir, a joder mientras hago reír. Traigo las balas cargadas, no trago las malas caras. Me cago en tu mala baba, no vales pa' nada. Salgo pa' partir la pana, hago lo que da la gana. Claro que no ganas con tus ganas a la one, two. Instintos por impulso son abusos hacia ti. Intrusos ilusos solo sabían mentir. Oye, fuera de aquí, que mis rimas patean culos y tu culo es un sinfín. ¿Dónde acaba tu juego? Empieza el mío. Perro, ponte el rabo entre los huevos porque escribo esto. Diversos versos densos, extensos, pienso. Muevo fichas al antojo del orden del universo. Batalla léxica, práctica, esta tántrica, táctica, drástica. Ajá, es matemática. Toma temática, acústica, más y mástica. Es mi música didáctica. Suena fantástica. Batalla léxica, práctica, esta tántrica, táctica, drástica. Ajá, es matemática. Toma temática, acústica, más y mástica. Es mi música didáctica. Suena fantástica. Bombos, cajas, platos, parques, plazas, barrios.
quedas en shock con el show de estos dos y yo. Traigo la droga que coloca más que el ácido. No es una moda ni una muda, te deja pálido. Es más que válido este cálido, árido hip hop. Bienvenidos a mi campo semántico. Sexo duro, te lo juro, no es romántico. Mi mami micro con cariño rindo al máximo. De sol a sol yo solo escribo libros prácticos. Intransferible sigue mi sistema táctico. Mi estilo matemático, te matemático. Y con 1000 kilos de explosivo me lastimas, chico. Dame tu equipo de sonido, niño rico, pijo. No corto el hilo, sigo, persigo, ligo mi ritmo. Lo hago divino, vino gordo, rap. Y a la vez fino, hora tras hora sentado frente del ordenador. Calculando el puto modo de cómo ser el mejor. Soy preso de mi verso, disperso y libre. Inmenso y denso y tan intangible. Es como un flipe, de si lo flipes. Saco tu mente, la despego, enseño el fin. Ven con batalla léxica, ¿quieres pasarlo bien? Chica, yo sujeto el rap como tetas un sostén. Te lubrica cual vagina, saco rimas como un tren. Se ilumina mi página, imagina mi nivel. Pero mira cómo me miran, huelo la envidia de todo aquel. Que no me llegan a la barriga, encima vacila sin tener fe. Rebelde sin causa, resuelve sin pausa. Retuerce cada ritmo y bien le saca la salsa. Cada palabra patada lanzada a la cara. Chacal, 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 ráfaga, ya nada las para. Va para cholos de raperos disfrazados. Se creen que el rap es para ir aparentando. Les digo, ves por lo venido, aquí solo existe un camino. Y mi sentido solo para mis hermanos. ¡Óyelo! Batalla léxica, práctica, esta tántrica, táctica, drástica. Ajá, es matemática. Toma temática, acústica, más y mástica. Es mi música didáctica, suena fantástica. Batalla léxica, práctica, esta tántrica, táctica, drástica. Ajá, es matemática. Toma temática, acústica, más y mástica. Es mi música didáctica, suena fantástica.
Voilà, c'était Batalla léxica et le son s'appelle Bombos. Et vous êtes de retour au fond près du radiateur 106.3 FM comme tous les mardis soirs 19h-20h30. On est rediffusé le vendredi matin de 7h à 8h30. Et on a un site internet www.aufondprèsduradiateur.fr où vous pouvez télécharger les émissions et faire plein d'autres trucs. Et une adresse mail aufondprèsduradiateur@no-log.org où vous pouvez nous écrire des infos, des textes, plein de choses, du son, ce que vous voulez. Voilà, et puis bah, on continue cette émission et on vous parle des luttes liées à la question du logement et à Saint-Denis notamment.
Ouais, donc on en a déjà parlé ici, on avait, avec le collectif Dégage, on aménage de Montreuil-Bagnolet. En décembre aussi, on avait fait une émission que vous pouvez réécouter sur le site par rapport à ce qui se passait à Saint-Denis autour des expulsions de squats. Et donc on va faire un retour à Saint-Denis, parce que ce qui se passe en ce moment à Saint-Denis depuis pas mal de temps, c'est des travaux partout, des destructions d'immeubles, des gros plans de rénovation. Par exemple, on peut parler de l'ANRU, qui de 2007 à 2013, il y a eu 3750 logements qui ont été détruits ou qui vont être détruits sur pleine commune, notamment... Donc pleine commune, c'est la communauté d'agglomération, donc notamment des immeubles qui ont été détruits à La Courneuve, au Clos Saint-Lazare à Stain et à Saint-Denis. Il y a un plan qui s'appelle le PNR4 qui concerne le centre-ville, donc le quartier Brisé-Chalat et surtout le quartier Porte de Paris, Stade de France. Et donc c'est 1500 logements qui sont concernés par ce plan-là sur 10 000 en centre-ville. Donc 130 démolitions et 1200 opérations de réhabilitation lourde ou recyclage foncier, comme ils disent. Et donc les conséquences de ces plans-là, c'est des déplacements de population et notamment des expulsions de squats. Et donc les squats dont on parlait tout à l'heure, fin novembre, début décembre, il y a eu 4 expulsions de squats à Saint-Denis, notamment rue des Aubries et rue Gabriel Péri. Et les gens sont encore à la rue ou dans des situations archi-galères. Donc il y en a certains, ils sont en hôtel au Blanc-Ménil jusqu'à la fin de la trêve hivernale. Et la plupart, en fait, ils sont renvoyés vers le 115 sans solution. Ils doivent changer d'hôtel tous les soirs ou arriver devant un hôtel, la porte est fermée. Donc rappeler, on leur dit d'aller devant un autre hôtel, ça est arrivé. Et donc les seules propositions qu'a fait la mairie, sans parler de la préfecture qui en a fait aucune, les seules propositions de la mairie, je parle de la mairie parce que dans des communiqués ils disent qu'ils soutiennent la lutte, c'est un Adjeco place de 15 mètres carrés, un préfa de 15 mètres carrés, place du 8 mai 45, et donc les gens de Des Aubriers à Gabriel Péri sont encore à la rue sans aucune solution. Et ce qui s'est passé dernièrement, le 15 février, il y a une femme qui était dans ce genre de situation, dans ce type d'hôtel, en attente de logement, qui s'est immolée dans le hall de la mairie. La famille est très énervée parce qu'on l'a fait poireauter, demande de logement depuis plusieurs années, sans aucune réponse. Et donc la mairie a fait un communiqué en disant « Son acte désespéré crie l'urgence de mesures en faveur du droit à l'hébergement et au logement au moyen de la réquisition immédiate des logements vides, publics et privés. » Et donc, samedi dernier, il y a plusieurs personnes, des mal logés, des gens en galère, des soutiens, des... différentes personnes qui ont donc pris la mairie au mot et qui ont tenté de réquisitionner un immeuble qui appartient à une filière de la communauté d'agglomération Plaine Commune, un immeuble qui était vide depuis 2009 à la Plaine Saint-Denis. Et donc qui ont tenté qui ont occupé et qui ont tenté de réquisitionner cet immeuble pour des logements. Il y avait des gens qui avaient besoin de logements, qui voulaient habiter là, et il y avait aussi l'idée d'en faire un lieu de lutte pour les différentes personnes qui sont en galère, qui sont expulsées, qui sont à la rue, et aussi pour pouvoir s'organiser, avoir un lieu pour pouvoir s'organiser contre les plans de rénovation, contre les expulsions, etc. Et donc l'immeuble a été occupé samedi dernier, et en fait la police est venue assez rapidement, et finalement ils sont repartis, et la directrice générale de Plaine Commune, Catherine Léger, est venue le soir en disant qu'elle était la propriétaire de l'immeuble. Elle s'est présentée comme la propriétaire de l'immeuble, et donc elle a porté plainte. Et les keufs en ont profité pour expulser le logement. Ils sont venus à 10 quarts de gendarmes et à coups de bélier expulser les habitants qui ont été emmenés en quart au commissariat de Bobigny. Et qui finalement sont sortis au bout de pas très longtemps, heureusement. Et donc voilà ce qui s'est passé samedi dernier à Saint-Denis. Et donc on va passer un reportage qu'on a trouvé sur le site Son en lutte, et qui raconte cette journée.
C'est le ménage et après c'est l'installation.
Saint-Denis a été le théâtre cet hiver d'expulsions, laissant une cinquantaine de personnes à la rue sans qu'aucune solution viable de relogement leur soit proposée. La seule réponse de l'État et de la municipalité est un hébergement d'urgence de quelques jours par le 115 aux quatre coins de l'Île-de-France, dans des hôtels miteux où faire chauffer du lait pour nourrir son bébé reste interdit. Mercredi 15 février, une femme hébergée dans ce type d'hôtel en attente d'un logement stable s'est immolée dans le hall de la mairie. Elle est décédée le lendemain. Je cite « Son acte désespéré crie l'urgence de mesures en faveur du droit à l'hébergement et au logement, au moyen de la réquisition immédiate des logements vides, publics et privés, s'est empressé de réagir la mairie dans un communiqué. Nous avons donc décidé de prendre la mairie au mot en occupant un immeuble laissé vacant par Plaine Commune Développement, société d'économie mixte présidée par Patrick Braouzec, député communiste et président de la communauté d'agglomération Plaine Commune.
On est là parce que... À Saint-Denis, là où on habite, sur le parvis de la mairie, il y a des gens qui dorment depuis 2 mois. Il y a eu plein de manifs et on ne veut pas en rester aux manifs. Donc on s'est dit que la solution, c'était de faire ce qu'on avait à faire, c'est-à-dire on savait qu'il y avait des logements vides et de permettre à des gens qui dorment dehors depuis 2 mois de retrouver un logement. Là, ce qui nous guette, c'est la fin de la trêve hivernale qui rend les choses encore plus compliquées. Parce que la tolérance de la mairie par rapport aux gens qui dorment sur le parvis, on ne sait pas combien de temps elle va durer, quoi. Et puis là-dedans, il y a des sans-papiers.
Oh !
Donc nous, voilà, on représente un collectif de logements du 18e, sans frontières. Et on est là parce qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent d'être mal logées ou bien qui n'ont pas de logement et qui se retrouvent en fait sans abri du jour au lendemain aussi et pas de solution. Et voilà, on est là et on ne partira pas tant qu'il n'y aura pas de solution en fait. Voilà, c'est ça.
On est où là ?
On est à Saint-Denis et on a forcé la porte d'un bâtiment. C'est pour trouver une solution, oui, parce que on est gentil, mais avec la gentillesse, on n'a rien obtenu. On utilise la force. Voilà, c'est pour nous faire entendre. Et apparemment, on ne s'est pas fait entendre quand on était des personnes qui acceptaient d'attendre, mais attendre combien de temps ? Et qu'il y a des gens qui souffrent par rapport à ça, et qu'il y a des gens qui se tuent par rapport à ça. Donc on avait bien entendu qu'il y avait une personne qui a été brûlée dans la mairie de Saint-Denis. Et on est là aussi pour arrêter en fait de détruire des bâtiments aussi. Hein ? Pourquoi ? Pourquoi on détruit des bâtiments alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de logement, qui sont dans des situations précaires et voilà. C'est une solution pour nous faire entendre tous.
C'est j'ai failli perdre la garde de ma fille à cause du logement, parce que j'ai pas de logement et mon ex-compagnon a un grand appartement, donc il s'est basé sur ça, il s'est basé sur ça pour avoir la garde de la petite. Elle est vraiment petite et ça m'a c'est ce qui m'a motivée à venir ici. Je suis dans un hôtel. Je suis dans un hôtel social où il y a des gens qui ont des problèmes psychiques. Vous comprenez, moi je suis capable de payer le loyer. Je ne fais pas partie de cette catégorie qui ne peut pas payer. Je peux payer un loyer, j'ai une garantie. Vous comprenez, on demande... un salaire de 3 fois le loyer. Il faut gagner 3 fois le loyer. Sur Paris, un studio, à 700-800 euros, il faut gagner plus de 2000 euros pour pouvoir louer sur Paris. Et même si vous dites au propriétaire, ma banque se porte garante, j'ai de l'argent, je peux payer, eh bien non, c'est les bulletins de paye, c'est... Et voilà, donc je suis dans un cercle vicieux. C'est ma première action et quand j'ai appris qu'il y avait une maman qui s'est immolée il n'y a pas longtemps à cause de ça, ça m'a fait beaucoup de... J'aurais pu le faire. À cause d'une séparation, on vous dépossède de tout. Après, on parle des carrières des femmes qui font pas carrière, qui vont pas jusqu'au bout de leur carrière professionnelle, et ben moi, à cause de ça, je n'irai pas au bout de ma carrière professionnelle. Je suis obligée de me battre pour avoir un logement, c'est sûr que ça va compter. Il y a d'autres priorités qui vont. Je peux pas tout faire en même temps.
De Dalo, quand même, ça fait une année et demie. C'est prioritaire, urgent. Il nous envoie prioritaire, urgent. Il n'a rien. On n'a rien de concret, quoi. Il n'a rien de concret. Oui, j'ai une fille de 2 ans et demi. 2 ans et demi. On est une famille. Mais on sera expulsés le 12. C'est le 12, c'est officiel. C'est par le tribunal. On a fait cassation. Et c'est pareil. C'est confirmé l'expulsion pour le 12. Et on ne sait même pas où aller. Donc c'est comme tout le monde.
Est-ce qu'on veut
En tant qu'élu, vous pouvez tout à fait prendre la décision en disant on va dormir tranquille, en attendant que vous réunissez ensemble. Si vous voulez bien nous inviter, on veut bien venir assister à votre réunion.
Je peux vous répondre ou pas? Je peux vous répondre. Ce n'est pas moi qui prendrai là une décision seule. Vous avez pris une décision collective d'une action. Nous, on prendra une décision collective de positionnement par rapport à cette action. C'est normal.
Mais, non, mais vous l'avez, vous l'avez dit vous-même en plein communiqué de presse que les portes sont ouvertes. Bon. Le droit de la réquisition n'a jamais été appliqué. Allons-y. Soit vous l'avez dit parce que c'est pour régaler la foule, soit c'est par esprit de parce qu'on est en plein truc électoral. On ne comprend pas trop. Donc ça reste ambigu.
C'est pas vraiment payant électoralement.
Que fait-on? Que fait-on?
Je viens de vous répondre.
Donc vous attendez de vous réunir?
Bah, bien sûr, on va prendre une décision collective.
On reste dans l'attente donc d'être expulsé là tout de suite.
On a des personnes avec nous qui ont fait une demande de logement, ça fait 11 ans. Et qui n'ont encore rien eu. Alors c'est quoi ça? C'est quoi? Il faut mourir peut-être pour qu'on accepte de nous donner un logement. Alors ils attendent qu'ils meurent ou qu'ils se suicident. Voilà, c'est ça leur objectif. Mais vraiment, c'est du n'importe quoi. Les gens sont expulsables et ils font rien du tout, du tout, du tout. Alors là, il y en a marre, vraiment. Il y en a marre des souris à la maison, des cafards, des machins. On en a marre vraiment. C'est trop, c'est trop. On demande nos droits, c'est tout. On a droit à avoir un logement qu'on nous en donne. Je suis expulsable, là. Alors, d'ici le lendemain, si je suis expulsable, je suis dans la rue. Comment faire avec ma fille, une ado? On va te coucher dehors ou quoi? Ils s'en foutent. Alors, pour voir, ils s'en foutent. Ils font la guerre aux mal logés, voilà.
Que les communes manquent de moyens et que l'État est le seul responsable de la situation du logement, mais ces mêmes communautés d'agglos ont les compétences en matière de logement et les moyens existent. Les grands chantiers de rénovation et le projet du Grand Paris impliquent des millions d'euros d'investissement au profit des grandes entreprises. Aide publique pour l'implantation de sièges sociaux de grands groupes, Arcelor, SFR, la SNCF et bien d'autres, qui n'hésiteront pas à nous laisser crever de faim quand la situation économique des États-Unis ou de la Grèce arrivera en France. Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés à Saint-Denis, comme à Montreuil ou Bagnolet. Derrière ces plans se dissimule à peine une volonté politique de transformer radicalement les anciennes banlieues rouges de la Petite Couronne en virant les pauvres pour en faire des quartiers aseptisés pour familles plus aisées. Qui nous fera croire que la construction d'un centre nautique olympique financé par pleine commune à hauteur de 15 millions d'euros profitera aux plus pauvres? Pour ces derniers, expulsion, augmentation des loyers, réduction du logement social. Ils nous dégagent et réaménagent.
Le lendemain de l'occupation, le dimanche 4 mars, les occupants ont été expulsés par les forces de l'ordre, à 8h du matin.
Du radiateur, on vient d'entendre un petit reportage sur l'occupation de l'immeuble qui a eu lieu ce week-end à la Plaine Saint-Denis. Donc, comme Raph l'expliquait tout à l'heure, cet immeuble il a été occupé samedi. Dimanche matin, c'était terminé. Les flics ont débarqué et ont embarqué 21 personnes pour un contrôle d'identité au commissariat de Bobigny. Voilà, donc le lieu n'a pas tenu, c'est bien dommage. Par contre, au vu de l'énergie qu'il y avait samedi, où il y avait quand même une bonne centaine de personnes, au vu du fait qu'il y ait énormément de collectifs qui commencent à se bouger sérieusement sur ces questions, que ce soit dans différentes villes de banlieue, donc Ivry, Montreuil, Bagnolet, Saint-Denis, sur Paris également, hein, dans le 20e notamment, il y a des groupes et des individus qui se bougent sur ces questions-là, dans le reste de la France aussi. Du coup, voilà, on se dit que tout ça n'est que le début d'une toute une série d'actions et de travail politique sur ces questions-là, en tout cas sur Saint-Denis.
En tout cas, ce qui est sûr, ouais, c'est qu'il y a des gens qui luttent, pas que sur Paris ou Saint-Denis, mais partout en France, autour des questions de logement. Et donc, je vais en profiter pour vous faire un petit point donc, sur Toulouse. On en avait déjà parlé dans cette émission. Le centre social autogéré de Toulouse, qui est donc qui a été créé donc en avril 2011, notamment à l'initiative du CREA, le collectif pour la réquisition, l'entraide et l'autogestion. Voilà, il s'agissait initialement de l'occupation d'un lieu situé 4 bis rue Goudouli à Toulouse, dans l'optique d'héberger 25 personnes qui donc étaient en grave problème de logement. Alors on va, je vais rapidement vous lire un petit extrait de leur texte de création, hein, quand même, pour que vous voyez un peu c'est quoi leur ambiance, et puis on va revenir après sur l'actualité plus proche. Donc, nous occupons aujourd'hui ce bâtiment appartenant au ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale. Nous voulons en faire un espace autogéré basé sur l'entraide et la solidarité. Dans une partie, des familles et des individus précarisés s'auto-organiseront autour de lieux d'habitation mis en commun, comme une cantine ou une salle à manger. Et l'idée, c'est aussi d'associer cette démarche à le fait de créer un lieu ouvert aux pratiques militantes, aux discussions, aux débats, aux rencontres politiques aussi, hein, et donc d'organiser de nombreuses activités du type alphabétisation, cours de soutien, formation collective, cours de boxe, danse, bibliothèque, médiathèque, etc. Voilà, donc c'est pour finir, il disait, nous n'attendons plus que l'État prenne ses responsabilités, nous avons conscience que l'avenir est entre nos mains. Donc voilà, on les avait trouvés déjà assez sympathiques pour vous en parler dans cette émission. Un des membres était intervenu donc sur cette antenne, et pour revenir donc sur leur actualité plus récente, ils en sont à 5 bâtiments occupés, hein, quand même, en un an et demi, c'est assez sympathique déjà. Et donc pour vous informer de tout ça, déjà je vais vous lire un premier extrait du communiqué. Donc, qui date du 23 janvier dernier et qui annonçait l'ouverture d'un quatrième bâtiment, 12 chemin du Bitet, dans l'avenue Saint-Exupéry à Toulouse. Donc, il s'agissait de bâtiments vides depuis un an, de logements de fonction appartenant à la municipalité, et donc qui ont été réquisitionnés pour accueillir 6 familles forcées de vivre dans la rue. Voilà donc le petit commentaire du texte. La mairie nous a souhaité une année chaleureuse et solidaire. Merci, on va s'en charger nous-mêmes. La misère n'est pas une fatalité, elle est organisée par les gouvernements et la bourgeoisie. Donc voilà, pour nous émanciper, organisons-nous par nous-mêmes et pour nous-mêmes, par l'entraide et l'autogestion. Donc voilà toujours le ton sympathique, hein, qu'on peut retrouver dans les textes qui émanent du CREA. Et pour revenir donc sur la toute dernière info en gros qui nous est parvenue, c'est la réoccupation le 18 janvier dernier d'un bâtiment donc d'où ils avaient été évacués par la police. Alors initialement, il avait été occupé le 6 octobre 2011. L'occupation avait été constatée dans les délais prévus par la loi pour couvrir les habitants. C'est-à-dire 48 heures. Cependant, le 12 octobre, il y a eu une évacuation illégale, hein, par la police qui ne correspondait à aucune décision juridique de loi, quoi. Et donc, c'est pour ça que ce bâtiment a été donc réoccupé le 18 janvier dernier. Et donc, il s'agit toujours de loger, cette fois, ce sont 5 familles, et il s'agit d'une maison 5 rue Goudouli. Voilà, donc le texte finit évidemment sur un appel à soutien et à solidarité. Hein. Bon, on n'aimait pas sur Toulouse, mais si on a des auditeurs qui nous écoutent sur le web, voilà, ils appellent toujours rendez-vous 5 rue Goudouli, de jour comme de nuit, pour soutenir et participer à cette occupation. Voilà, donc on essaiera de vous tenir au courant s'il y a d'autres initiatives qui nous parviennent.
Voilà, d'ailleurs, ils ont un site, je crois que c'est crea-csa.overblog.com pour se tenir un petit peu au courant des différents rendez-vous et des différentes luttes.
Je voulais juste dire aussi que sur Saint-Denis, l'évacuation s'était faite sans aucune procédure aussi. Elle s'était faite de manière complètement illégale, l'évacuation de samedi.
Comme à Toulouse, du coup.
Ouais.
Voilà, et donc pour terminer ce petit point sur les luttes pour le logement et contre les expulsions et la restructuration urbaine, il y a une manif qui est organisée, ça sera le 17 mars à 13h au métro Alexandre Dumas avec pour mot d'ordre simplement manifestons contre les expulsions et la restructuration urbaine.
Eh bien, je crois qu'en cette fin d'émission, c'est tout de suite et sans plus tarder l'heure de la rubrique FAF.
De retour sur Au fond près du radiateur 106.3 FM et tout de suite la rubrique FAF.
FAF.
Qu'est-ce qu'il y a?
La rubrique FAF.
Je traque les FAF.
I'm ready.
droit de gauche, même son de clients qui sont faux.
C'est un scandale.
Je traque les faf.
Je
traque les faf en costard.
Les partis politiques pire.
La gauche caviar. La droite de la droite au pouvoir.
Délation France aux Français.
Faf.
Faf.
Profit. Corruption.
Faf.
Tu veux mon nom,
au fond près du radiateur.
Si on rigolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises.
Voilà, de retour au fond près du radiateur. Et donc, cette semaine, dans la rubrique FAF, on va, que vous le savez, hein, la rubrique FAF s'intéresse souvent aux flics et sous toutes leurs formes, hein, parce qu'il y a de plus en plus de flics qui ne sont pas membres de la police nationale, mais qui jouent bien, c'est bien ce rôle-là qu'ils remplissent dans la société aujourd'hui. On avait eu l'occasion de parler notamment de l'armement, de la sécurité privée, du fait qu'il y ait de plus en plus on peut appeler ça des milices, hein, tout simplement, des trucs qui sont en dehors de la police, mais qui quand même désarment, quand même contrôlent des gens, quand même sont responsables de violences. Et là, cette semaine, donc, on va s'intéresser à une unité qui s'appelle l'ASVP Montreuil, qui porte aussi le doux nom de Tranquillité publique. On va voir bientôt ce que ça cache. Alors l'ASVP, c'est l'Agence pour la surveillance de la voie publique. Il s'agit de vigiles qui sont sous contrat avec la mairie. Et donc leur mission, officiellement, hein, dans les textes, hein, parce que c'est bien de les citer, leur mission est donc d'assurer le respect de certaines règles communes de l'espace public. Alors on notera au passage le flou sur les certaines règles communes. Et principalement de constater les infractions au stationnement, hein, donc ça n'a pas l'air bien méchant, voire de verbaliser les habitants qui contreviennent aux règles relatives à la propreté de l'espace public. Voilà, donc en gros, ramasser les sacs plastiques par terre et donner des contraventions pour le compte de la mairie. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. A priori, ça n'a pas l'air forcément choquant. Et pourtant, l'ASVP Montreuil a quand même une particularité, c'est qu'ils ont une définition, on va dire, un peu étonnante de ce que c'est de remplir la mission de la propreté et la tranquillité publique.
Voilà, donc là, il semblerait que cette tranquillité publique s'est née spécialisée dans le nettoyage des squats et des indésirables. Donc, entre autres, hein, en octobre 2010, déjà, il y avait eu un squatteur qui s'était fait murer dans son logement par ses agents de la SVP. Et comme le squatteur refusait toujours de se faire expulser de son appartement, ils avaient lâché les chiens, qui s'étaient allègrement fait plaisir sur le squatteur. En janvier 2011, il y avait aussi une histoire avec, dans un camp qui était rue de Rosny à Montreuil, un camp de Rome, où, encore une fois, les agents de la tranquillité publique avaient débarqué pour les inciter à partir. Hein, clairement, c'était ça. Et donc, ils avaient fracturé les portes pour intimider les gens. Voilà, donc on voit un petit peu les pratiques de ces agents-là, hein, c'est des menaces, des intimidations, des coups de pression physique, la dégradation des logements pour éviter que les gens ne puissent pas, pour éviter qu'ils reviennent en fait s'installer à l'intérieur de ces squats. Et voilà, donc là récemment, hein, c'était le 31 janvier il me semble, ils sont à nouveau intervenus pour nettoyer un squat qui s'appelait La Tourelle à Montreuil. Et donc on va vous laisser écouter un petit témoignage extrait d'une vidéo qui a été faite par le collectif Regard à Vue et qui raconte un petit peu ce qui s'est passé ce jour-là.
Les SVP, c'est des contractuels. Pour un certain nombre d'entre eux, ce sont des volontaires qui font le sale boulot que la mairie ne peut pas faire autrement. Cette maison, ça fait 10 jours qu'on était dedans, quoi. Et jusque-là, on n'avait pas eu de soucis. Et les ASVP sont arrivés. Ces gens-là, c'est des gens qui sont aux ordres de Dominique Ouenet. Ils ont eu fait un trou dans le muret à côté de la porte. Ils ont gazé à l'intérieur de la maison, de façon à vous rendre impuissant, quoi. Et après, ils ont continué leur sale boulot. Une fois qu'ils ont pu pénétrer dans la maison, et bah, de toute façon, nous, on pleurait toutes les larmes de nos corps et on s'est fait mettre dehors. Et puis après, ils se sont mis à tout casser. Ils prennent les fenêtres, ils les cassent, ils cassent les sanitaires, ils arrachent l'électricité. Enfin bon, ils font en sorte que ce lieu soit plus habitable, quoi. Ils sortent, ils ont du matos à la main. C'est quoi? C'est une barre de fer, c'est un pied de biche. C'est avec ça qu'ils ont cassé les portes. Eux, c'est la tranquillité publique, c'est les SVP, quoi. Et là, le gars avec le casque, là, lui, c'est Hochard, quoi. Lui, c'est le chef de la tranquillité publique. C'est le gars qui fait tout le sale boulot, quoi. Et c'est quand même assez ironique de savoir que ces gens-là s'appellent la tranquillité publique, alors que quand même leur travail consiste essentiellement à faire tout sauf que ce soit tranquille pour les gens. Voilà.
Voilà, donc on voit un peu ce qui se cache derrière ce doux nom de tranquillité publique que c'est attitré l'ASVP Montreuil, et que derrière ça, on voit bien que c'est une sorte de milice de la mairie qui sert à évacuer les indésirables au moment où on est en pleine restructuration urbaine, etc. C'est bien pratique d'avoir des gens qui font, comme dit le témoin que vous avez pu entendre, le sale boulot, pour le compte de la mairie, sans trop forcément faire recours à la police, parce que ça ferait quand même pas propre, une mairie verte, etc. On essaye quand même de se positionner à gauche. Bon, voilà, c'est pas évident. Donc, juste pour rappeler, vous avez pu entendre le nom du chef de la SVP Montreuil. On va le rappeler pour les auditeurs, parce que dans la rubrique FAF, on balance les blazes.
C'est Denis Auchard, cette chère personne.
Voilà, donc vous êtes prévenu, Denis Auchard, si vous le croisez sur Montreuil, vous savez c'est quoi son travail. Voilà, et juste pour rappeler que le son que vous avez pu entendre, il est extrait d'une vidéo, c'est assez facile à trouver, vous tapez « Gay en vert » sur Internet et vous trouverez donc la vidéo en intégralité. Et il y a aussi, dans le cadre de cette vidéo, un appel à témoignage. Donc si des gens ont eu affaire à la SVP Montreuil, si il y a des témoignages de violences, de pressions qui ont été subies, je crois qu'il y a une adresse mail auquel vous pouvez envoyer toutes ces infos, ces témoignages.
Oui, c'est vraimentmontreuil@roquettemail.com. Roquette, donc R-O-C-K-E-T-M-A-I-L.
Voilà, je crois que c'était la fin de cette rubrique FAF.
C'est la fin de cette rubrique FAF, c'est la fin de cette émission au fond auprès du radiateur. En cette fin d'émission, je vous rappelle tout de même que si vous n'avez pas entendu l'émission en entier, si vous voulez entendre d'autres émissions, on a une adresse internet, c'est au fond auprès du radiateur, tout en attaché, tout en minuscule.fr. Si vous voulez nous transmettre des infos, des commentaires et tout un tas de choses, c'est au fond auprès du radiateur, @no-log.org. Voilà. Donc, on est parti pour les dédicaces.
Avant, on peut peut-être rappeler les rendez-vous de la manif du 17. Donc,
c'est à 13h au métro Alexandre Dumas.
Donc, manif contre
contre les expulsions et les restructurations urbaines.
Ok. Et la prochaine émission, ça sera sur la fermeture de l'usine PSA Peugeot Citroën d'Aulnay. Voilà
laquelle on a pu prendre un petit peu de son, voilà. Et qu'on diffusera. Donc on vous donne rendez-vous mardi prochain de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Maintenant, c'est véritablement le moment des dédicaces.
Alors moi je prends le micro direct, comme ça voilà, je peux en placer une pour tous les poteaux, tous ceux qui sont derrière quatre murs qui écoutent cette émission, pour tous ceux qui n'étaient pas là ce soir, pour Mouloud, pour Olive, pour Sarah, pour Meuto, pour Marianne, pour tout le monde, tous les poteaux, Yaskamaz, les cheminots qui se grattent un peu le derrière, leurs enfants, leurs petites copines, et puis pour tous les chanteurs libertaires qui maraudent sur les routes nationales, voilà, en ces temps pluvieux. Voilà, à toutes.
Voilà, et dédicace à tous ceux qui luttent, et dédicace aussi à Zéro Hebdo qui prend l'antenne juste après nous. Et je pense qu'on peut tranquillement leur laisser la place.
Allez, à toutes.